Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous retrouvons Paul Amar, Jean-Philippe Gaulier, Nicolas Ruff, Vladimir Collat, Hervé Schauer et Christophe Renard pour la deuxième partie de l'épisode consacré aux questions des auditeurs.
Christophe, je crois que tu voulais enchaîner sur la question sur l'IA, mais je ne vois pas comment enchaîner, je suis désolé.
C'était plutôt, puisqu'on disait que l'IA allait remplacer la cybersécurité dans le bullshit pour noyer les actionnaires potentiels.
Alors, je vais plutôt peut-être rebondir sur une autre question, parce que j'ai groupé toutes les questions un peu trollesques ou sujet d'épisode à la fin, puisque je pense qu'on ne va pas en parler trop longtemps. Mais j'ai une question qui s'adresse au départ à Vlad pour sa veille de l'OSIR, qu'il a fait tous les mois pendant des années, et qui en fait pourrait s'adresser à tout le monde. Quel est le top 3 des sujets marquants, pas forcément des failles, hein, mais des sujets marquants en cybersécurité dans ces 10 ou 15 dernières années?
Je pense qu'on en a cité un juste avant avec Snowden, parce que à l'époque, moi, j'étais à la Banque de France. On montait des infras un peu complexes et on nous traitait de parano, de se protéger des attaques de la guerre des étoiles, etc. Et d'un coup, je suis passé de parano à éclairé. C'est-à-dire qu'avant, ils se foutaient de ma gueule, les métiers et autres, en disant « Mais c'est n'importe quoi, machin, ça n'existe pas. » Et d'un coup, « Ah bah si, en fait, vous aviez raison. » Ça, enfin... Moi, je l'ai vécu vraiment comme un gros changement avec tout ce qu'il y avait dedans. C'était incroyable. Il y a également... Mais en fait, finalement, ça rejoint un peu ce qu'a dit Christophe juste avant. C'est Shadow Broker, mais avec la suite de Shadow Broker. C'est-à-dire Shadow Broker et WannaCry et ensuite NotPetya. Parce que finalement, ce ne sont que la suite de l'événement Shadow Broker où, a priori, donc, le gouvernement russe a mené une attaque... Enfin, le premier plutôt que nord-coréen avec WannaCry et a été repris par... le gouvernement russe pour mener une attaque contre l'Ukraine, mais ce qui a un petit peu débordé du pays, a touché en particulier chez nous Saint-Gobain, et a quasi détruit le système d'information de l'entreprise en quelques minutes. Ça, je pense que ça a quand même marqué les esprits. Et un troisième, je réfléchis, là j'en vois
Earthbleed
pas.
Peut-être.
Comment?
Earthbleed,
non, mais dans les vulnérabilités, j'irais peut-être pas Earthbleed, mais plutôt Log4j. Qui est arrivé à cette merveilleuse période des fêtes de fin d'année et qui a obligé tout le monde à bosser quasi jour et nuit, week-end compris, pour essayer de savoir où est-ce qu'était ce... j'ai failli être vulgaire, mais cette espèce de bout de code minuscule, cette petite librairie que tout le monde utilisait, mais personne ne savait où elle était. Ça aussi, ça a obligé les gens à essayer de reconstruire des référentiels, des inventaires de ce qu'ils avaient au fur et à mesure. Et finalement, beaucoup de gens se rendent compte que finalement, avoir un inventaire à la fois des systèmes qu'on a, des logiciels, librairies, etc., c'était pas si mal que ça. Donc ouais, je citerai ça, je citerai Snowden, Shadow Broker avec toute la suite jusqu'à NotPetya et Log4j.
Alors moi, j'irai plus loin que Log4j, parce qu'en fait, il y a eu des... Log4j, ça a démontré que les systèmes open source, enfin les logiciels open source étaient vraiment embarqués à tout un tas d'endroits et qu'on n'avait pas du tout d'inventaire de ces choses-là. C'est chose que les Américains essayent de faire maintenant, ce qu'ils appellent le Software Bill of Material, c'est-à-dire que pour travailler avec certaines entités du gouvernement, tu dois être capable de lister absolument toutes les librairies open source que tu utilises. Donc il y a eu ça, il y a eu la faille Debian avec les clés SSH prédictibles, etc. Mais tout ça, on va dire, c'est accidentel. Earthbleed, un commit un 31 décembre à 23h50, bon, ok. Mais ce qui a tout changé derrière, c'est Jiatan. Parce que là, on a eu la preuve qu'il y avait des accidents dans l'open source, mais il y a aussi des gens qui sont capables de passer 2 ans à se hisser au rang de contributeurs majeurs de projets open source et qui sont là activement pour saboter de l'intérieur et pas en mode comme il y a quelques années, comme quand kernel.org avait été backdoré, qui était quand même un travail un peu de niveau zone h.org où en fait c'était juste pour... ça sentait un peu le hacker solitaire qui avait réussi à rentrer. Là, c'est vraiment un plan déterminé, cohérent, sur le long terme, et donc ça prouve que ça existe. Et aujourd'hui, avec le problème qu'on a sur le CDN de Polyfill, par exemple, qui a été revendu par son mainteneur officiel à une entreprise chinoise qui, aujourd'hui, il a été prouvé qu'elle s'en est servie pour distribuer du contenu malveillant. Voilà, c'est que le début. Il y en aura d'autres.
Ah, on a eu avant ça quand même, on a eu énormément de compromissions par des faux packages, enfin des packages truqués sur les distributions de paquets Python et distributions Node.js qui ont été massivement exploitées pour le commerce en ligne, enfin pour récupérer les cartes bancaires dans le commerce en ligne. Il y a une progression, c'est pas une rupture, je pense.
Enfin, ceci dit, dans les trucs marquants, moi je trouve que l'exécution spéculative dans les processeurs, moi j'ai trouvé ça pas mal aussi.
Oui, c'est joli, mais ça n'a pas tant d'impact que ça. C'est une belle démonstration, mais il y a eu peu de cas. On en a vu quelques-uns, mais peu de cas d'exploitation dans la nature.
Je crains qu'on ne les connaisse pas bien, les cas.
Pour parler un peu, on va dire, règlement RGPD, quand même. C'est quand même quelque chose de notable.
Moi, j'aurais tendance à dire qu'un des premiers gros piratages très impactants, très public, c'est le piratage de DigiNotar, qui a montré qu'on pouvait pirater une racine de confiance, deux d'ailleurs, puisqu'ils n'étaient pas les seuls piratés, juste pour traquer des opposants pendant une élection présidentielle. Et que les éditeurs de navigateurs étaient totalement impuissants.
Mais si on veut rester sur, sur les typologies d'attaques, il y a aussi, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi les chaînes de distribution, l'attaque sur, via les chaînes de distribution qui ont changé la donne ?
SolarWinds.
Par exemple.
SolarWinds, pour moi aussi, c'est un fait marquant.
Oui, oui, mais vous prenez des trucs récents. Donc,
oui, mais en même temps, c'est assez disruptif.
Sophistiqué, tu voulais dire. Et SolarWinds, par exemple, ça a touché quand même, fait rare, des dizaines de milliers d'entreprises et d'agences gouvernementales américaines qui se sont fait poncer totalement par un pays étranger dont on ne citera pas le nom. Ouais, ça, c'est quand même un très, très beau fait marquant.
Après,
et dont ont découlé un certain nombre de lois, justement, pour assurer la sécurité des logiciels.
Si on veut prendre quelque chose d'intemporel, c'est... l'insécurité des logiciels de sécurité.
Ah, alors ça fait peut-être passer à peut-être la dernière question, Nicolas.
Non, on en a encore plein, tu sais.
Ah, d'accord.
Ce que je veux dire, c'est que il y a 20 ans, les failles dans les moteurs d'extraction rare et LHA et Zoo dans les antivirus étaient exploitées. La semaine dernière, il y a encore des failles dans des appliances de sécurité. En fait, de manière générale, tout ajout de logiciels dans un système d'information rajoute des failles. Et les logiciels de sécurité qui sont là pour protéger ne font pas exception.
Il y a des modes. Parce que je crois que c'est vers 2018 où, quand à la Black Hat, on a commencé à avoir des publications qui défonçaient les interfaces de gestion des pare-feux et autres appliances. En fait, il y avait assez peu d'attaquants non étatiques qui fichaient son nez là-dedans. Alors que finalement, c'est des vieux Linux avec des interfaces web qui tournent en route. Donc pas le top de la sécurité. Et une fois que ça a été publié sur un équipement, on n'a plus arrêté. Parce qu'en fait, les gens qui éditent ce type d'équipement ont des architectures qui sont souvent anciennes, qui sont dures à revoir. Et donc, ils ont le choix entre sortir un tout nouveau produit, le concevoir, le tester, ce qui est très compliqué, ou faire des rustines sur un produit qui a un âge, quoi.
Alors, toutes les
pièces. Le cycle de vie du développement logiciel n'est pas encore à son art.
Ça reste un art et c'est pas encore une science.
Toutes les questions suivantes sont des questions vraiment techniques. On ne va pas dire que c'est du consulting gratuit qu'on vous demande, mais quasiment. Pour vous donner un exemple, on a une question sur la faille CVE 2024-2961, qui est cette faille dans PHP exploitable via la fonction iconv, donc quand on convertit du chinois en français ou l'inverse, et qui théoriquement était exploitable, en tout cas dans plusieurs applications PHP telles que Roundcube, telles que présentées à OffensiveCon 2024. La question est assez générique, c'est « mes développeurs n'appellent pas directement la fonction, donc ils ne veulent pas patcher, que puis-je faire pour les convaincre ?» Et en fait, c'est une question qu'on peut appliquer de manière générale à toutes les failles logicielles. Est-ce qu'il faut aller poncer entièrement un système d'information ou est-ce qu'il faut faire de la red team pour obliger les gens à patcher? Ou est-ce qu'on peut imaginer que les gens vont de même appliquer les correctifs de sécurité dont le CVSS est supérieur à un certain score?
Non, mais c'est un problème en général. D'ailleurs, c'est pas simplement dans les équipes internes, c'est chez les éditeurs de produits. C'est une question de déni qui est de dire j'ai pas fait l'erreur moi, donc j'ai pas de problème. Et en fait, ça c'est une pensée d'intégrateur ou de développeur. Je plaide coupable d'avoir été les deux. C'est pas une pensée d'attaquant. L'attaquant s'en fout. L'attaquant rien à faire de qui va porter la responsabilité ou des 72 équipes responsables d'intégrer le produit. L'attaquant, il va prendre le truc qui traîne et il va l'utiliser. Et en l'occurrence, un produit. Et d'ailleurs, D'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve dans toutes les législations qui apparaissent en Europe ou aux États-Unis. Hein. La responsabilité de l'éditeur, elle arrive. La responsabilité du distributeur, elle arrive. Et vous êtes responsable du produit que vous vendez ou que vous mettez à disposition. Et si la faille vient d'une librairie tierce que vous avez intégrée ou si elle vient de vous, dans toutes les législations, pourtant c'est rare que les Américains et les Européens se mettent d'accord. Hein. Enfin, ils sont pas mis d'accord. Ils sont juste dit la même chose. In fine, c'est celui qui vend un produit qui sera responsable de ce qu'il y a dedans.
La faille, elle n'est pas exploitable immédiatement dans le code qu'on a. Maintenant, si le pirate s'attaque un peu, il va ajouter du code et il va utiliser cette fonction dans la bibliothèque qui est faillible. Donc le problème, c'est qu'un peu tout le monde a raison. Aujourd'hui, c'est pas utilisable. Par contre, demain, quelqu'un va s'appuyer sur la présence de cette faille pour pouvoir l'utiliser.
Bah, dans ces cas-là, ce sera l'attaquant qui sera responsable.
De toute façon, l'attaquant est toujours coupable.
Hein, je vous rappelle qu'un scan réussi admin, c'est 9 mois avec sursis en France.
Oh, ça dépend du magistrat.
Jurisprudence.
Oui, on pourra en reparler de celle-là.
Ce sera probablement le sujet d'un épisode dédié. J'enchaîne sur cette liste à la Prévert. L'autre question est par rapport à la séparation des tâches, ou segregation of duty en anglais. C'est un principe qui reste quand même assez peu appliqué. Est-ce qu'il y a des progrès envisageables dans ce domaine-là ? De mon côté, j'ai des choses à dire, mais je vais vous laisser parler en premier.
C'est-à-dire, quand tu as une équipe de 5 personnes, la ségrégation des tâches, c'est compliqué. Maintenant, quand tu es 500, 1000, oui, ça s'envisage.
Il y a ça. Il y a le fait aussi que la valeur... En fait, aujourd'hui, la ségrégation des tâches, c'est un truc qu'on trouve essentiellement dans le monde financier ou dans le monde où on considère que les données, elles sont radioactives, quoi. C'est perdre les données, etc., ça va coûter très cher. C'est-à-dire essentiellement dans le monde de la finance. On est en train d'évoluer dans un monde où les données personnelles, ça va être pareil. Et où on va imposer aux gens qui ont opéré pendant des décennies des grandes bases de données, d'informations personnelles, de faire la même chose que ce qui est imposé depuis des décennies au monde de la finance. C'est chiant, ça coûte cher, c'est inefficace. C'est aussi le cas quand on vend du cloud et qu'on veut vendre de la confiance. Bah, si on n'a pas de ségrégation des tâches, ça veut dire que le développeur peut les lire les données clients, que les données sont sur la plateforme de test comme sur la plateforme de prod, et qu'au premier incident de, quelqu'un qui quitte l'entreprise en conflit, quelqu'un qui perd une clé USB avec son backup ou un truc comme ça, tout est perdu. Et en fait, ces failles catastrophiques, elles sont de moins en moins acceptables. Et la ségrégation des rôles et le fait que quand les gens quittent l'organisation, on leur coupe leurs accès un petit peu avant, etc. On y vient de façon beaucoup plus généralisée dès qu'il y a des gros stocks d'informations sensibles qui sont des données clients, des données personnelles, choses comme ça. Alors qu'il faut être honnête, il y a encore 10 ou 15 ans, c'était, et encore dans la plupart des organisations aujourd'hui, c'était l'exclusive de des gens qui vendent de la confiance.
Moi, je trouve qu'on est, comme souvent en sécurité, limité par les outils. C'est-à-dire que les gens n'ont pas une stratégie, ils se contentent d'utiliser ce qui existe. C'est les gens vont régler des paramètres de base de registre plutôt que de se dire « tiens, j'ai besoin de faire telle chose ». Et j'ai vu des implémentations à grande échelle de systèmes avec de la double, voire de la triple authentification sur des actions d'administration, donc pas forcément sur de la finance, hein, mais juste sur de l'accès à des données clients. C'est juste qu'aujourd'hui, ce n'est pas fourni par défaut par la plupart des logiciels et les administrateurs ne vont pas pousser dans cette direction puisque eux, ce qu'ils veulent, c'est de la simplicité. Ils veulent avoir un accès permanent, partout, sans contrainte. Et donc, du coup, ils ne vont jamais remonter ce type de risque. Voilà. Mais c'est possible, c'est juste que les outils et les éditeurs sont passifs et que ce qu'on a est good enough, comme on dit en anglais.
Il y a un problème de fait de poule. Hein. C'est s'il n'y a pas de demande, les éditeurs n'ont aucune raison de le pousser, ou ils le vendent comme un produit de luxe. Il y a pas mal de secteurs où, en fait, on va considérer que le mieux de la sécurité, c'est un produit de luxe qui est réservé à quelques acteurs qui sont prêts à payer cher. Et en même temps, si c'est pas intégré dans le logiciel, on va pas commencer à l'utiliser, ou du moins, on va même pas former les gens à l'utiliser parce que c'est réservé à quelques boîtes du CAC 40 ou du Fortune 500, puis c'est fini, quoi. Donc, il y a un problème de fait de poule. Il y a des choses, quand même, si on pense, par exemple, à l'admin just-in-time sur les fonctions Microsoft, d'administration Microsoft, des choses comme ça, on voit bien que il y a des choses qui poussent dans ce sens-là. On n'y est pas encore. Et il y a une inertie, hein. Pourquoi changer un truc que les gens ne demandent pas? Pourquoi changer un truc qui marche?
C'est clair. Surtout qu'il faut toujours aller sur des projets nouveaux, innovants, à base d'IA, de blockchain, de NFT, alors que refondre le cœur de l'administration de son système, c'est pas du tout un sujet sexy qui va lever des budgets. On a une question un peu connexe sur la gestion des secrets. dans les fichiers de configuration, les scripts, etc., tous les mots de passe de login, les clés privées, ce genre de choses. Bon, là, évidemment, je pense qu'on ne peut pas répondre à la question, parce que c'est très spécifique. L'auditeur parle de variables d'environnement, Chicopvolt, mais il ne mentionne pas si c'est dans de la CI/CD ou dans des scripts d'administration. De manière générale, est-ce qu'on a des recommandations à fournir sur la gestion des secrets en entreprise ?
Sur les serveurs Linux, vous avez une fonction qui s'appelle Key, qui est venue avec systemctl, systemd, etc., qui est assez méconnue, qui ne vaut pas un HSM, bien sûr, mais qui commence à faire le job. Donc ça peut être déjà une première entrée.
Tu peux expliciter en deux mots, qu'est-ce que ça fait ?
Ça permet de ne pas avoir les secrets en clair dans tes fichiers de configuration.
Et c'est un peu équivalent à la DPAPI de Windows, ou comment ça marche ?
Effectivement, je ne sais pas dans le détail, j'ai pas été voir. La DPAPI permet par exemple pour WireGuard de ne pas avoir les fichiers de conf avec les clés en clair, mais je ne sais pas si ça fonctionne de manière identique.
Il y a plus d'un système, il y a beaucoup de systèmes qui sont plus ou moins similaires, de coffres forts de clés qui sont plus ou moins intégrés soit au logiciel, soit au système d'exploitation, soit des logiciels d'orchestration, soit des logiciels dédiés à ça. Tous ont plus ou moins un même principe d'avoir une clé maître qui sert à chiffrer d'autres clés qui elles-mêmes servent à chiffrer les secrets, et donc à un moment il y a un processus de déverrouillage. En général, ils sont vulnérables au fait de dumper la RAM par un administrateur sur la machine, mais en fait là où les secrets sortent 80% du temps, c'est pas par l'admin qui dump la, enfin même si dans le monde Windows ça se fait beaucoup, mais dans beaucoup de cas sur les serveurs, sur les applications, les secrets qui sortent, ils sortent par négligence parce qu'ils sont dans le /tmp backup.rgz ou dans un dump de base de données avec alldatabase.sql, et dans le répertoire, dans le bash history de l'administrateur, ou simplement dans les scripts où ils sont en dur. Donc ne plus avoir de secrets en dur dans les scripts aujourd'hui ou dans du code aujourd'hui, c'est déjà l'état de l'art. Ne serait-ce que parce que quand ça part dans votre gestion de version, ça part partout. Ne pas les avoir dans les logs, ça serait aussi une assez bonne idée. Ne pas les avoir dans tout un tas de fichiers qui traînent partout. Donc en fait, ce vers quoi on converge, c'est les secrets, ça se gère avec un système de gestion de secrets. Que vous preniez celui de systemd, celui de... peu importe. Mais avec un système de gestion de secrets, et ensuite, bah, vous faites de la configuration là-dessus, et vous le durcissez autant que ça peut être. Évidemment, bah, comme dans tout ce dont on parle... changer des pratiques qui sont installées depuis des décennies, c'est dur.
Des solutions en tout cas comme Vault d'HashiCorp, moi si on regarde un petit peu ces derniers mois ou ces dernières années, ça semble être en tout cas une référence solide dans le domaine. En plus de ça, on peut interconnecter ça avec un LDAP et du coup avoir un niveau assez fin en fait des autorisations de lecture, d'écriture qui peut par exemple arriver à toucher à ces secrets. Donc je pense que c'est une alternative, ou en tout cas une possibilité qui est solide. Voilà, à garder en tête.
Précisons que HashiCorp a été racheté par IBM et qu'il faut peut-être aussi...
ACC, effectivement, qu'est-ce que ça veut dire, hein ?
Et il faut faire attention que dans toutes les mesures de sécurité, un coffre-fort de mot de passe, ça devient un SPOF, c'est le cœur de sécurité de votre système d'information, donc ne le déployez pas avec la conf par défaut. Ça se durcit, ça se supervise, et ça se gère comme étant un joyau de la couronne.
Oui, donc ils ont payé 6,4 milliards de dollars, donc il y a une bonne raison.
Tu parles du rachat d'HashiCorp à IBM, là.
Alors, un fork open source existe, qui s'appelle OpenBAO. Voilà, et c'est dans la lignée de OpenTofu, qui est le fork de Terraform. Donc, il y a des solutions et des alternatives qui peuvent exister. Mais comme le dit Christophe, ce sont des SPOF techniques qui vont devenir, du coup, des véritables cibles de choix.
Il y a quand même un avantage, c'est qu'une fois qu'on a migré vers ce genre de solution, changer tous ces secrets, ça se fait beaucoup plus facilement. Et du coup, ça donne une agilité en cas d'incident de sécurité qui est vraiment bien.
Je vais passer à la dernière question avant qu'on rentre dans la section troll. Existe-t-il des événements de type CTF orientés famille, notamment pour faire découvrir la cyber aux enfants de primaire ou de collège ?
Bien sûr, il y a le Hack Kids lors de le Hack.
Oui, mais alors les inscriptions sont extrêmement limitées. Il y a 12 ou 15 enfants qui peuvent participer.
En effet, c'est plein.
Alors moi, j'ai eu une expérience intéressante avec le concours Alkindi, qui est plutôt orienté cryptographie, mais qui est pour le coup un concours national de lycéens, et qui est de la crypto qui se fait avec un papier et un crayon. Il n'y a pas besoin de s'y connecter en courbe elliptique. Voilà. C'est plutôt de l'astuce, et ça permet de détecter les gens qui ont... la prédisposition, on va dire, à devenir hacker. Je ne sais pas si vous avez d'autres sources à citer, sinon je peux en mettre quelques-unes dans les références de l'épisode.
Bah, une autre source, on a accueilli Pascal Lafourcade et Christina, si je ne dis pas de bêtises, avec des énigmes ludiques, clairement, en cryptographie. Et donc ça, pareil, on peut juste acheter le livre et le faire à la maison à tête reposée. Je pense que c'est une bonne alternative.
C'est aussi de l'informatique avec du papier.
Et il y a un support qui a été créé par l'ANSSI pour les enseignants. Alors c'est plutôt destiné aux élèves de collège et lycée. Ça s'appelle CyberEnjeux, qui permet de donner des bases de cybersécurité. Alors c'est pas un CTF, c'est un jeu de plateau sur la base d'un jeu de plateau où tout est fourni.
Très bien. Je vais passer donc à une catégorie suivante qui est celle des suggestions d'épisodes. Donc ça n'appelle pas forcément de commentaires, sauf si vous avez quelque chose à dire dessus. On nous suggère de faire un épisode sur l'apport de l'IA pour la sécurité défensive. Mais je pense qu'on a déjà couvert ce sujet dans un épisode qui a été publié très récemment et postérieurement à la question avec Elie Burstein.
Ce qui est important pour tous ceux qui font des suggestions d'épisodes, les sujets, nous, on en a des milliers. On n'en cherche pas du tout. Ce qu'il faut nous donner, ce sont les noms des personnes francophones aptes à être intéressantes sur le sujet. Donc n'hésitez pas à nous donner des noms de personnes auxquelles nous, on ne pourrait pas penser et qui sont pertinentes sur un sujet donné qu'on n'a pas traité.
Excellente remarque, Hervé. C'est vrai qu'on nous suggère beaucoup de sujets d'actualité ou de publications ou d'outils, logiciels ou matériels, mais on a souvent du mal à trouver des intervenants pertinents qui sont francophones, hein, québécois, belges, luxembourgeois, suisses. On nous suggère aussi un épisode sur les plateformes de hacking. Alors malheureusement, toutes celles que je connais sont commerciales, donc je ne sais pas si on pourra en inviter une sans froisser les autres. Et je ne vais donc pas citer de nom ici. Et on nous suggère les meilleures pratiques pour la cybersécurité des PME. Alors là, j'en vois qui sont déjà dans les starting blocks parce que c'est leur métier. Je pense que ça mérite un épisode à part entière. Qu'est-ce que t'en penses, Johan ?
Ah, je pense que c'est effectivement à Jean-Philippe qu'il faut poser la question.
Non, mais on a aussi invité, il n'y a pas longtemps, un auteur de livres sur le sujet.
Ah ouais, le problème, c'est qu'il n'a pas parlé de PME.
C'est vrai. Je pense que, en le faisant très vite, le problème des PME, c'est qu'en fait, ton budget, enfin, tous tes budgets sont dépendants de ton chiffre d'affaires et de telle entreprise. Donc, la cyber, ça n'est qu'un budget parmi les autres. Et donc, forcément, le budget d'une PME pour sa sécurité, il sera inférieur à d'autres grands groupes et à certaines prestations et services dont les coûts sont quand même difficilement compressibles. Tu vois, un audit, c'est compliqué. Et il y a plein de produits qui sont quand même à destination des ETI ou des grands groupes, parce que tu préfères vendre 10 fois 200 000 euros plutôt que 2000 fois 1000 euros. Et c'est pas le même modèle économique, c'est pas les mêmes efforts. Donc les PME, les TPE, c'est quand même très compliqué.
Le vrai problème des TPE et des PME, ce sont leurs bureauticiens, ce qu'on appelle les DSI externalisés, etc. Parce qu'en fait, les sociétés pensent être couvertes par leur informaticien délégué. Et en fait, l'informaticien, il n'y connaît rien du tout. C'est un bidouilleur qui, au mieux, sait faire fonctionner les Windows, éventuellement Mac et les imprimantes. Et l'entreprise a un sentiment de sécurité. Donc, il y a des vraies difficultés.
Fois, c'est un problème de budget. C'est que si tu n'as pas les budgets, bah, effectivement, tu externalises avec potentiellement une personne qui vient un jour par semaine et qui n'est pas forcément compétent.
Oui, mais elle pense qu'il est compétent. C'est ça le souci.
Quand tu t'appuies sur un garagiste, tu fais l'hypothèse qu'il est compétent.
Moi, j'ai une autre hypothèse là-dessus, c'est que quand t'as mal aux dents, tu vas pas voir ton ophtalmo.
Comment tu choisis ton dentiste ?
On est donc d'accord qu'il y a un sujet d'épisode. Oui. Pas forcément très bienveillant, mais...
Mais si...
On va pouvoir entrer dans la catégorie que tout le monde attend, qui est la catégorie des trolls. Alors, il y en a une question qui est pas vraiment un troll, mais que j'ai considéré comme un troll. Quelqu'un dit, avec les demandes des régulateurs de faire de plus en plus de pentests, par exemple Dora, etc., la formation doit évoluer car on ne forme que des défenseurs actuellement. Alors, moi, j'étais très surpris par cette question parce que pour moi, 98% des formations sont très offensives. On apprend aux gens à craquer, enfin, faire du pentest, faire du reverse, etc. Il y a peu de gens qui apprennent les bio-CRM, les requêtes Splunk, etc. en formation. Mais je ne sais pas, est-ce que vous pensez qu'on s'est fait troller sur cette question ou pas ?
Après, ça dépend ce qu'on appelle les formations.
Les bio-CRM, ce n'est pas de la défense. En fait, pour te défendre en cybersécurité, il faut que tu apprennes comment marche un système d'exploitation, comment marche le réseau, comment marche une base de données. Tu dois apprendre les bases de l'informatique et comment configurer ensuite l'informatique.
Ok. Est-ce que vous voyez autre chose à dire là-dessus ?
Je pense qu'on a déjà abordé plusieurs fois la question. Hein. C'est devenir de bons informaticiens plutôt que des gens qui font de la cyber. Et tout se passera bien.
Mieux en tout cas.
Enfin, vous pouvez faire de la cyber. Vous pouvez faire de la cyber.
On a une autre question sur l'IA. Seriez-vous capable de faire un épisode uniquement avec des voix générées par l'IA ?
C'est ce qu'on fait depuis plusieurs années. Hein.
Hervé s'y accole en coulisses. En fait, nos limites sécu n'existent pas. Nous n'existons pas. Nous ne sommes que des voix générées par l'IA.
Sécu avait 10 ans d'avance.
C'est ça.
Non, mais plus sérieusement, lorsque dans 10 ans, je prendrai ma retraite, je serai toujours dans nos limites sécu au travers d'une IA.
Et on te fera dire plein de bêtises.
La preuve que c'est une IA, parce que tu te bases sur le droit actuel pour déterminer que dans 10 ans, tu seras en retraite.
Est-ce qu'on t'aura en hologramme chez nous, Hervé ?
Ah bah, il aura son avatar quand on sera des VTubers sur Twitch. Hervé aura son avatar avec son sac à dos.
Allez, entre l'avatar de Tupac et celui de Mélenchon.
La question suivante s'adresse justement à Hervé. En fait, il y a deux questions qui s'adressent spécifiquement à Hervé. Il n'a eu que des questions troll, je suis désolé. La première, c'est quel est le meilleur antivirus ? Et la deuxième, c'est qui a vraiment inventé le firewall ?
Alors, quel est le meilleur antivirus ? Ben, évidemment, de ne pas avoir d'antivirus, mais être sous Linux. Et qui a inventé le firewall ? Ben, il faut différencier les différentes techniques. Le filtrage IP a été inventé sur un contrat de la DARPA par une société qui s'appelait Network System à Minneapolis. Le filtrage IP est arrivé dans les sources de Wellfleet et de Cisco, qui étaient les deux fabricants, les autres fabricants de routeurs en dehors de Network System. Ils sont arrivés dans les sources en 91, hein, alors qu'ils étaient dans les sources de Network System en 1989. Le filtrage IP tel qu'il était conçu en 89 par le Network System était d'une puissance sans limite, c'est-à-dire que la totalité des champs et des drapeaux d'un paquet TCP/IP pouvait faire l'objet d'un filtrage spécifique. Donc on n'a jamais fait mieux depuis, à part le filtrage dynamique. Et moi, ce que j'ai inventé avec Christophe Wolfugel, c'est simplement le relais en coupure. Donc mettre un relais entre un client et un serveur, couper la communication, identifier, authentifier l'utilisateur dans cette coupure et journaliser, analyser le contenu. Voilà, on a aussi inventé le DNS privé-public. Bon, il y a un papier de l'USNIC qui le prouve, qui a été publié en 92, donc c'est pas très dur.
Hervé, ce mode diode, ou non, c'est pas le mode diode, mais plutôt cette coupure, et c'était au niveau TCP ou c'était au niveau applicatif que tu
réalises ? Au niveau applicatif. Non, non, c'était un relais complètement applicatif. Voilà, après, tout le monde a repris le même principe dans les firewalls. Après, il y a simplement eu quelqu'un
Hervé,
qui...
Hervé, tu sais ça, parce que moi, j'avais des traces de filtrage de paquets avec...
Comment tu...
Attends, j'avais des traces de filtrage de paquets en 1980 avec CSPF dans Alto, qui était l'Unix de Xerox.
À l'époque, il ne devait pas y avoir beaucoup de paquets. Hein. Ça devait être vraiment les débuts des relais.
Mais là, tu parles... Je te rappelle que déjà, pour avoir TCP/IP sur un réseau Ethernet, je veux dire, c'est...
Non, ça, c'était CMU, Stanford Packet Filter, à l'époque.
J'ai jamais entendu parler. Et,
t'enverrai les refs.
Enfin, voilà, moi, dans les routeurs, en tout cas, c'est apparu en 89.
Ah bah oui, bien après, oui.
Dans le monde classifié, il y avait déjà des systèmes de filtrage sur les ports séries, et typiquement pour faire du transfert entre deux zones de niveau de classification ou de sensibilité différentes depuis assez longtemps. Mais je pense qu'il y a vraiment eu un changement radical avec la généralisation du pare-feu du pare-feu IP qui permet de rajouter beaucoup de paramètres en fait et pas simplement un ou deux champs dans la couche la plus basse du paquet à filtrer, quoi.
Mais juste pour répondre d'où vient le troll, pourquoi la question se pose ? Simplement parce qu'il y a eu par la suite quelqu'un qui régulièrement, un Américain qui parle dans beaucoup de conférences, qui régulièrement modifiait sa biographie et se vieillissait d'un an de plus. Et chaque 5 années, il se vieillissait d'un an de plus. Et en se vieillissant à près de 2 ans de plus que ce qu'il avait, il a fait croire... et fait croire aux États-Unis, bon, je m'en contrefiche, que c'était lui l'inventeur, parce qu'il avait vieilli sa bio. Bon, depuis, il a arrêté, il s'en fout complètement, et il est multimillionnaire. Mais c'est juste à cause de ça qu'il y a eu une polémique. Et c'est vrai qu'à un moment donné, bon, il m'en a voulu, j'ai écrit aux organisateurs de conférences américains en montrant ses publications dans ce qui s'appelait à l'époque les News, un système d'information distribué avec les dates et les adresses e-mail d'où il publiait, pour montrer que sa biographie avait 2 ans d'erreur. Voilà. Donc le mec, il a refait la même chose que moi, mais après.
Bah, il est toujours dans Wikipédia.
Tu t'es encore fait un ami.
Oui, mais si tu veux, je veux dire que ça... Enfin, bon, écoutez, s'il y a des auditeurs pleins de bonne volonté qui veulent refaire ma page que Wikipédia a supprimée et j'en passe et des meilleurs, bon, c'est avec grand plaisir, mais je reconnais que je me suis jamais intéressé à ces choses-là.
On est dans la section troll du podcast, Hervé. Fais attention à cette proposition. Ouais.
Et pour en revenir à ta première proposition, où tu dis qu'il n'y a pas de virus sous Linux, je précise quand même que tu es passé sur iPad depuis fort longtemps et que du coup tu as résolu tous tes problèmes malveillants.
Et il y a des malwares sur Linux.
Oui, oui, tout à fait, mais j'ai pas besoin d'antivirus. Après, l'iPad est quand même une solution que j'avais trouvée extraordinaire lorsque j'étais dans un grand cabinet d'audit, parce qu'on recevait effectivement des messages sur une messagerie Microsoft potentiellement malfaisant, et j'avais vu qu'en lisant ces messages, en regardant les pièces jointes où il fallait pas cliquer sur mon iPad, ça faisait rien. Donc, et si je voyais que c'était un truc, oh là là, j'effaçais. Et après, quand on retournait sous Windows, bah, il n'y avait pas de problème. Tous les trucs dangereux avaient été effacés sur l'iPad.
La meilleure sandbox.
Bah, il faut quand même avouer que les systèmes mobiles ont été repensés entièrement et ne viennent pas de l'informatique personnelle où tu peux, par conception, installer ce que tu veux sur ta machine que tu as achetée et c'est la tienne et tu fais ce que tu veux avec. Les systèmes mobiles offrent quand même un système de cloisonnement et de sécurité dès la conception qui a changé pas mal de choses. Voilà. Il n'y a plus cette idée qu'il faut réinstaller régulièrement pour supprimer tous les malwares, etc. On a une dernière question troll qui est en lien avec les visas de Nancy. Bon, Mathieu, je sais que c'est toi qui as posé cette question, je ne vais pas y répondre. Et on aborde enfin la dernière partie de l'émission, à savoir toutes les questions sur l'échec de la sécurité que nous avons groupées ensemble. Alors, quand même, quelqu'un s'est foulé et a posé la question, si la sécurité est un échec, y a-t-il au moins une justice et avons-nous les attaquants que nous méritons? Et je pense qu'on peut peut-être conclure là-dessus. Quelle est votre opinion?
Mon avis là-dessus, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'attaquants, parce que si les attaquants étaient vraiment là, il n'y aurait plus d'Internet. Avec toutes les failles qu'on a toutes les semaines, s'il y avait vraiment des méchants, ça fait longtemps qu'on n'aurait plus d'Internet, donc on aurait tout coupé. Le problème, c'est qu'ils en ont besoin pour se déplacer, donc ils ont gardé ça.
Et il ne faut pas oublier, le bordel joue des deux côtés. Pour les attaquants aussi, c'est le bazar. Il n'y a pas deux versions identiques, il n'y a pas deux systèmes d'information. C'est le bordel, il faut être honnête.
Eux aussi ont du mal à recruter.
Et en plus, ouais, enfin, ça dépend, hein, ça dépend combien tu payes.
Quelle année pour être en vie? OpenSSH, Exchange, Outlook, tous les pare-feux principaux, PFSense,
et VPN.
Fortinet, Cisco, Palo Alto,
Liberty,
etc. Tous les gestionnaires de parcs, etc. Quand on nous dit oh là là, vous allez vous faire pirater, bah déjà, dans certains pentests, t'arrives pas à rentrer parce que t'as pas l'opportunité d'avoir le truc exposé alors que tu sais que tu peux les éclater une fois que t'es à l'intérieur.
Je pense qu'on a effectivement les attaquants qu'on mérite dans le sens où c'est clair que quand un attaquant rencontre de l'hostilité, bah soit il va voir ailleurs, soit il monte de niveau parce que c'est vous qui cible vraiment. Et si on se fait pirater par un attaquant qui est très mauvais, d'abord ça arrive dans beaucoup d'endroits parce que c'est très dur d'avoir à une certaine échelle, c'est vraiment dur d'avoir un système d'information bien protégé et de le garder protégé. Mais si on s'est fait pirater par un tocard, bah c'est qu'on a des choses à changer, quoi.
Et puis, est-ce que ça ne dépend pas de la façon dont on regarde? Si on regarde avec une loupe, c'est vrai que la sécurité est un échec. Il y a des vulnérabilités partout, les attaquants rentrent un petit peu comme ils veulent. Mais si tu regardes avec des longues vues, on vit dans un monde qui est ultra numérisé et on arrive à vivre et à bien vivre.
C'est exactement comme la crise de complexité du logiciel. Dans les années 70, je ne me rappelle plus de la date précise, l'OTAN fait une conférence sur le génie logiciel en disant on a fait une projection et arrivé aux années 80, on ne saura plus gérer la complexité du logiciel parce qu'il y a trop de composants, c'est le bazar. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait? On a changé les langages de programmation, on a changé les éditeurs, les compilateurs, les chaînes de... Et en fait, aujourd'hui, on gère des projets qui reposent sur des centaines de millions de lignes de code qui s'assemblent, qui communiquent. Dans les années 80, c'était la grande affaire, c'était comment je fais des appels à distance. Aujourd'hui, tout le monde fait des trucs en JavaScript à travers le web qui sont improbables. Donc, en fait, la complexité, elle se gère à chaque fois par une montée en niveau d'abstraction des outils qu'on utilise. Et c'est le cas aussi dans la sécurité. Le problème que l'on a, c'est est-ce que la vitesse à laquelle on sécurise l'informatique que l'on déploie, elle est égale, inférieure ou supérieure à la vitesse à laquelle on met de l'informatique partout? Et pendant des années et des années, on mettait plus vite de l'informatique qu'on mettait de la sécurité, parce qu'on gérait les deux séparément. Et c'est ce passif qui fait qu'aujourd'hui, c'est quand même difficile. Alors que si on part d'un système tout neuf, il y a beaucoup de choses qui sont faisables et c'est beaucoup plus difficile à pirater. Donc oui, la sécurité a quand même changé. Si vous demandez à un pentester s'il préfère attaquer un Windows 2000 ou un Windows 10 ou 11, il vous répondra assez clairement. Hein. Donc les choses ont changé. Est-ce qu'elles ont assez changé ?
Les gros systèmes ont évolué. Quand tu prends Windows, par exemple, ça s'est vachement fermé, vachement amélioré, etc. Malgré toutes les vulnérabilités qu'on voit, hein, c'est vachement plus solide. Par contre, les trois derniers pentests qu'on a fait sur du code développé par des développeurs actuels du web, qu'est-ce qu'on a retrouvé ? Injection SQL, credential par défaut et XSS stocké. Et on a même fait du saut de profil juste en changeant un ID dans le code en 2024.
Donc la conclusion, c'est que c'est un échec.
Et une réussite à la fois.
Oh, c'est ce que je te dis à chaque fois, Nicolas. L'échec est la mère de la réussite.
Voilà, l'échec devient un succès. On peut peut-être conclure avec une chanson de Jacques Higelin, La mort est le berceau de la vie.
La cyber est comme l'écologie, un travail de persévérance.
Alors si tout le monde y va de sa citation, moi je vais citer un des sectateurs de la secte de l'échec qui m'avait dit « Aujourd'hui, la sécurité, on ne vend aux gens que des parapluies alors qu'ils ont besoin d'un toit. »
Même chez eux.
Ouais, surtout chez eux, en fait. On n'a pas de fondation solide, en fait, dans la sécurité. On se contente de patcher, parce qu'en fait, tout remettre à la repartir de la feuille blanche et mettre tout à la poubelle, toute l'existence, c'est impossible. Je ne sais plus avec combien avait été estimé le coût de développement de Debian, qui est zéro, puisque c'est de l'open source, donc du bénévolat. Mais si quelqu'un, aujourd'hui, une entreprise se lançait là-dedans, ce serait un investissement de plusieurs dizaines de milliards de dollars en coût de développement logiciel. Alors effectivement, peut-être qu'à la fin, ça produirait quelque chose de fiable, prouvé, etc., tout réécrit en Rust avec des preuves formelles et pas de legacy, mais c'est juste que ça n'arrivera jamais. C'est arrivé dans une certaine mesure avec les mobiles, mais qui ont quand même hérité d'une partie des problèmes classiques, on va dire, d'interface confuse, de pop-up et autres. Quoi. Parce que quand même, il y a la partie aussi humaine qu'on ne sait pas corriger aujourd'hui.
À part l'iPad.
Bon, eh bien, merci beaucoup. Merci à tous les contributeurs. Merci de nous avoir aussi posé ces questions. Chers auditeurs, nous espérons que ces épisodes vous auront intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine ou à bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.
Au revoir.
À bientôt.
Au revoir. Au revoir.